Serge Hefèze du lundi au vendredi à 19h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et un grand merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 19h. Le journal est signé Aurélie Kiefer.
Alors que les frappes israéliennes se poursuivent, notamment sur Beyrouth, le Liban s'inquiète pour son patrimoine archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et gravement menacé par la guerre. Une réunion exceptionnelle s'est tenue cet après-midi au siège de l'agence de l'ONU à Paris. Principale décision, Dominique André, la mise sous protection renforcée des sites culturels libanais et une assistance financière internationale.
34 sites culturels libanais, dont 6 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont placés sous protection renforcée provisoire. La cité antique de Baalbek, réputée pour ses vestiges phéniciens et romains, et le site de Tyr, dans le sud du pays, qui a subi une frappe directe, vont bénéficier de cette initiative d'urgence pour soutenir la protection de leur patrimoine exceptionnel. Pour agir, l'agence de l'ONU active la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Adoptée aux Pays-Bas, à la suite de la destruction massive du patrimoine culturel pendant la Seconde Guerre mondiale, ce traité multilatéral apporte une assistance technique et financière pour financer les mesures afin de réparer les dommages. Il ouvre aussi la voie à des poursuites pénales contre les auteurs des destructions. Les autorités israéliennes ne sont pas citées dans le communiqué final pour leurs frappes militaires qui ont endommagé le patrimoine culturel libanais. Mais l'application de la Convention de 1954, qui fut signée par Israël, peut désormais ouvrir la voie, après enquête, à des poursuites pénales contre leurs auteurs. Récemment, d'autres pays ont déjà saisi l'UNESCO. L'Ukraine a demandé le placement d'un certain nombre de ses sites culturels sous protection renforcée en 2022. Dans l'histoire de la Convention de 1954, un seul pays à ce jour a obtenu des condamnations, c'est le Mali, avec Tombouctou, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui avait fait l'objet de destructions délibérées de la part des djihadistes. Ils ont été arrêtés et condamnés par la Cour pénale internationale de La Haye.
En ouverture du sommet du G20 à Rio, le président brésilien Lula a lancé officiellement l'Alliance globale contre la faim, une alliance comptant 82 pays signataires et qui se fixe pour objectif d'éradiquer la faim et la pauvreté. Le défi est gigantesque. Selon la FAO, 733 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023, soit 9% de la population mondiale. Plusieurs centaines de tracteurs français et allemands ont bloqué le pont de l'Europe qui relie Strasbourg à l'Allemagne pour protester contre le projet de libre-échange avec le Mercosur. Sur ce dossier sensible, la France a reçu aujourd'hui le soutien de l'Italie. Le ministre italien de l'Agriculture se prononce contre le projet d'accord sous sa forme actuelle et exige que les agriculteurs des pays du Mercosur soient soumis aux mêmes obligations que ceux de l'Union européenne. Le taux de remboursement des médicaments par la Sécurité sociale baissera de 5% l'an prochain. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, au Sénat. Même recul de la prise en charge pour les consultations médicales. 19h03 et sur France Culture, c'est l'heure de la seconde partie de Questions du soir, Quentin Lafay.
Merci beaucoup Aurélie Kiefer, seconde partie consacrée comme chaque soir à l'actualité des idées et de la recherche. Et ce soir, on va s'intéresser à une notion en particulier, celle de devoir et de viol conjugal.
France Culture, Questions du soir, Quentin Lafay.
Historienne de l'intime, Aïcha Limbada a publié en 2023 une étude brillante, passionnante et novatrice issue de son travail de thèse intitulé « La nuit de noces, une histoire de l'intimité familiale » aux éditions de La Découverte. Dans une lignée similaire, elle a fait paraître dans le Libé des historiens le 9 octobre dernier deux textes qui questionnent et historicisent la notion de devoir et de viol conjugal à l'heure du procès des viols de Mazan. Alors qu'est-ce que ce procès soulève comme problématique juridique sur le viol conjugal? Que recouvre la notion de devoir conjugal et comment la définir? Comment différencier ce qui relève de la morale arbitraire et du domaine juridique? Pour tenter de répondre à ces vastes questions, une invitée ce soir, Aïcha Limbada. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'École française de Rome, chercheuse associée du Centre d'histoire du 19e siècle et autrice de La nuit de noces, une histoire de l'intimité familiale qui a paru aux éditions de La Découverte. Merci d'être ce soir présente dans Questions du soir.
Mon client est conscient qu'il a une relation sexuelle avec une dame et il est rassuré par son mari qui lui dit que tout est OK et que c'est un scénario libertin qui lui est proposé dans lequel tous les acteurs sont consentants. Et c'est pour ça qu'il y va. Si jamais on lui avait dit elle n'est pas d'accord, il ne serait jamais allé. Jamais.
L'un des avocats des co-accusés du procès du viol de Mazan, il s'exprimait aujourd'hui. Cet avocat s'appelle Christophe Huguenin-Virchaud. Et alors une question, Aïcha Limbada, comment est-ce que vous liez la notion de devoir conjugal à celle de viol conjugal et comment le procès de Mazan vient les mettre en lumière ?
Alors cette notion de devoir conjugal, elle existe depuis longtemps. Elle est très présente dans le droit canonique et depuis le Moyen-Âge. C'est une notion très importante à partir du moment où les époux se marient et se marient religieusement. Il y a cette notion de devoir conjugal qui implique que les époux se doivent mutuellement le devoir de rendre leur corps disponible pour l'autre pour des relations sexuelles. À partir du moment où il y a ce devoir conjugal, la notion de viol conjugal n'est pas pensée, puisqu'il ne peut pas y avoir de viol dans un mariage où les épouses doivent, comme une dette, rendre le devoir, donc le devoir sexuel à l'autre. Donc moi, j'ai plutôt travaillé sur le 19e siècle, un moment où le devoir conjugal s'applique dans le mariage. Alors, les époux sont mariés religieusement, mais aussi civilement. C'est un devoir religieux, mais c'est un devoir qui est pensé comme tout à fait normal, même hors de la sphère religieuse et donc dans la société.
Je me permets de vous couper, pardonnez-moi, oui. C'est un devoir qui est réciproque, il y a une réciprocité entre l'homme et la femme au sein du couple pour justement honorer ce devoir.
Alors oui, le devoir conjugal, en tout cas tel que le conçoit le droit canonique et l'Église, est un devoir réciproque, égalitaire. L'homme doit rendre le devoir à sa femme, la femme doit rendre le devoir à l'homme. Mais le fait est que dans la société du 19e siècle, par exemple, la loi est inégalitaire, en faveur de l'homme. Toutes les pratiques, tout l'univers de pensée, tous les rapports sociaux sont inégalitaires. Il y a donc cette domination masculine qui s'applique dans le travail, dans la sphère familiale, dans la loi, dans la religion, donc partout. Même si ce devoir est pensé comme égalitaire, les époux, une fois qu'ils se retrouvent dans le lit, ne vont pas faire abstraction de tout ce qui se passe en dehors de la société pour se rappeler que cette fois-ci, le devoir est réciproque. Et d'ailleurs, les canonistes l'envisagent très bien. Ils essaient de voir dans quelle mesure une femme peut demander à être satisfaite par son mari, alors que de toute façon, on sait très bien qu'elle ne va jamais pouvoir lui demander concrètement, réclamer verbalement ce devoir. Personne ne le fait au 19e siècle.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'au 19e siècle ou à un autre moment de l'histoire, il existe pour les femmes au sein du couple classique un interstice pour exiger des hommes qu'ils remplissent ce devoir conjugal ?
Alors, c'est très rare puisque les femmes sont habituées depuis leur plus jeune âge à obéir. C'est ainsi qu'elles conçoivent les relations hommes-femmes. Elles doivent obéir à leur mari. Elles sont passives. Elles sont passives dans l'acte sexuel. Donc, elles attendent que le mari actif initie l'acte sexuel et soit en demande. Donc, c'est assez peu fréquent. Après, c'est vrai qu'il existe des procès parfois qui sont gagnés par les épouses quand elles n'obtiennent pas satisfaction et souvent c'est dans des cas où les maris sont impuissants. Là, je parle de procès religieux. Mmh. Et donc, elles arrivent se séparer de leur mari pour cette raison, mais ce sont des cas assez peu fréquents.
J'en reviens, Aïcha Limbada, au procès des viols de Mazan. Et je cite un extrait d'une interview que vous avez donnée dans le journal Libération. Aujourd'hui encore, dites-vous, la représentation de l'homme comme propriétaire du corps de sa femme est solidement enracinée dans les esprits, même si depuis les années 1820, des voix multiples, telles que les auteurs et autrices comme Balzac ou Georges Sand, médecins féministes, s'élèvent en France pour condamner le viol légal, l'expression consacrée pour désigner le devoir conjugal qui s'abat sur les épouses dès les nuits de noces. Il faut nous expliquer là de quoi il s'agit. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il se joue concrètement au moment de la nuit de noces ?
Alors, au moment de la nuit de noces, donc c'est la première nuit après le mariage, les époux doivent consommer sexuellement l'union pour que cette union soit considérée comme, pour que le mariage soit considéré comme parfaitement accompli.
C'est une obligation sociale ou légale ?
C'est une obligation sociale, ce n'est pas une obligation légale dans la mesure où rien n'indique, d'ailleurs la notion de devoir conjugal n'existe pas dans le code civil, elle n'existe pas dans les lois, c'est une attente sociale, les époux doivent consommer cette union, et dans le droit canonique, de la même façon, donc ce n'est pas une obligation formelle, mais il est attendu que les époux consomment sexuellement l'union pour que cette union, qui est valide à partir du moment où les époux se disent oui à l'Église, eh bien, soit considérée comme parfaite, complète et indissoluble. Tant que l'union sexuelle n'a pas eu lieu, l'union n'est pas considérée comme complètement indissoluble par l'Église. Et donc ce devoir conjugal, il est pensé comme obligatoire au XIXe siècle. Mmh. Et cette expression de viol légal qui apparaît, elle existe dès la fin du XVIIIe siècle et dès le début du XIXe siècle. Elle peut être prononcée, écrite dans des...
Elle est frappante pour nous.
Elle est très frappante. Elle suggère que ce viol conjugal qui n'existe pas dans les lois, qui n'est pas reconnu par les lois, étant donné que les rapports hommes-femmes dans le cadre du mariage impliquent un devoir qui est subi par les femmes, un rapport sexuel non consenti est un viol, et donc ce viol, il est légal, il est autorisé par les lois dans la mesure où la loi ne punit pas le viol à l'intérieur du mariage. Et donc oui, il y a des voix comme celle de Balzac, de George Sand et bien d'autres dans les années 1820-1830. Qui s'élève contre cette obligation de la sexualité dans le mariage. Et donc c'est une expression très frappante, le viol légal, qui est ensuite répandu à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Des romanciers et des romancières l'utilisent, mais aussi des médecins, des essayistes, beaucoup de gens.
Ce que vous nous expliquez, c'est que le viol conjugal n'est pas reconnu au XIXe siècle d'un point de vue juridique. Est-ce que là encore, il existe des interstices pour exprimer une violence qui a été vécue, une violence sexuelle qui a été vécue au sein d'un couple hétérosexuel ?
Oui, alors ce que moi j'ai étudié, ce sont des procès religieux. Donc ce sont des archives religieuses qui sont conservées au Vatican et qui concernent des procès que les époux ont entrepris pour se séparer, alors que le mariage est indissoluble dans l'Église catholique, mais en s'appuyant sur certaines possibilités du droit canonique, ils tentent d'obtenir soit la nullité de leur mariage, soit une dispense pour dissoudre l'union. Et il y a certains thèmes qui sont abordés lors de ces procès, et notamment le fait que les femmes refusaient la sexualité à l'intérieur du mariage et donc subissait cette sexualité comme un viol. Et même si le devoir conjugal est donc prévu par le droit canonique, eh bien les juges ecclésiastiques étaient quand même sensibles à cette notion de violence subie par les femmes et dénoncée comme telle pour rendre leur jugement et déclarer l'union nulle, invalide, parce que non consentie par les femmes, par exemple.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'une autre historienne. Elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'histoire de la sexualité. Elle s'appelle Sylvie Steinberg et elle s'exprimait lors du temps du débat, la même émission, mais c'était en 2019.
La conscience qu'il existe un viol conjugal, que ça peut exister, n'est pas une conscience récente. Il y a eu, dans les années 1880, à partir des années 1880, toute une série d'écrits de médecins et de romanciers, au premier rang desquels vous pouvez placer Feydeau, vous pouvez placer Maupassant, qui ont beaucoup écrit et beaucoup décrit le viol conjugal sous une forme qui est une forme particulière et qui n'est pas celle qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est la nuit de noces. Et précisément, cette nuit de noces assimilée à ce que Alexandre Dumas-fils appelait viol légal, a été dénoncé à partir des années 1880 et au-delà comme une forme absolument illégitime, au fond, de s'accaparer le corps de son épouse.
Là encore, Aïcha Limbada, je suis confus de réutiliser cet adjectif. Il est frappant de voir que la reconnaissance du viol conjugal soit si récente dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans les années 1980 pour qu'une telle bascule s'opère ?
Alors, dans les années, donc en 1990, il y a les premiers arrêts de la Cour de cassation qui donc rendent des décisions et qui estiment que dans le cadre du couple, les relations sexuelles peuvent ne pas être consenties et donc punies. Et après, il faut attendre même 2006 pour que la mention expresse de viol entre les époux soit quelque chose de reconnu par la loi. Donc en fait ça c'est une reconnaissance juridique de faits, de pratiques qui existaient depuis extrêmement longtemps, qui faisaient déjà l'objet de débats au XIXe siècle et tout au long du XXe siècle et qui arrivent extrêmement tardivement.
Est-ce que le viol conjugal est encore reconnu socialement ou en partie largement invisibilisé ? Quand on écoute justement la défense de certains accusés des viols de Mazan expliquer qu'ils pensaient pouvoir avoir une relation sexuelle avec cette femme parce qu'elle était simplement le mari qui avait autorisé à pratiquer une telle relation.
Oui, parce que ces idées qui existent depuis des siècles et des siècles selon lesquelles une femme appartient à son mari. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait aux femmes juste avant la nuit noce. On disait rappelle-toi que tu appartiens tout entière à ton mari. Donc, on estime que le mari est le maître, le propriétaire de sa femme. Et donc, ce sont ce genre d'idées qui perdurent encore aujourd'hui quand des hommes pensent pouvoir obtenir le consentement sexuel d'une personne qui n'est pas la personne en question, mais qui est le mari qui dit quoi faire et qui dispose en fait et qui donne, qui offre, enfin, livre sa femme aux accusés de Mazan.
Et dans cette expression de viol conjugal, je voudrais qu'on interroge le second terme, celui de conjugal. Citant Isabelle Steyer dans le livre Le viol conjugal, elle explique pourquoi choisir le mot conjugal alors que ce terme évoque en premier lieu le devoir conjugal. La notion de conjugalité sous-entend une volonté d'entretenir une relation intime. La circonstance aggravante est gommée par le sens populaire. Ce viol disqualifié devient viol conjugal. La disqualification est au cœur de la problématique du viol conjugal. Le viol n'est pas une forme de conjugalité. Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que cette expression-là de viol conjugal pose question en elle-même ?
En fait, le viol conjugal, c'est vrai que ça peut, enfin, c'est une expression qui est censée être paradoxale au départ. Donc, si on l'emploie, c'est aussi parce que c'est une expression frappante, donc qui frappe les esprits. Et c'est vrai que la conjugalité encore aujourd'hui est pensée comme prévoyant une sexualité, d'ailleurs, enfin, ce sont les pratiques, comme prévoyant la sexualité dans le couple. Et d'ailleurs, la justice n'est pas complètement au clair de ce point de vue, puisque si maintenant elle reconnaît le viol conjugal, elle peut encore punir des personnes donner des divorces pour faute à des personnes qui se refusent à leur conjoint dans le cadre du mariage, étant donné que se refuser sexuellement à son conjoint est considéré comme une sorte d'injure faite à l'autre ou de distance méprisante vis-à-vis de l'autre. Donc c'est vrai que ces décisions judiciaires peuvent paraître contradictoires et il reste, je pense, des choses à régler à ce sujet.
La voix de Michèle Perrault, historienne évidemment spécialiste de l'histoire des femmes, elle était l'invitée de Marie Richeux dans Pas la peine de crier le 30 décembre 2013.
Si on entre dans la maison, et il y a beaucoup d'espace dans une maison, et il y a un espèce de tabernacle du privé qui au fond est le lieu de l'intime, c'est la chambre. Elle est attractive parce qu'elle est secrète, elle est attractive parce que elle est sexuelle aussi. Le rôle du sexe, du sommeil, du sexe dans la chambre, c'est très important. Et en même temps, elle est très cachée. C'est justement le lieu où chacun d'entre nous, en couple seul, a envie d'être tranquille. Donc la personne se cache, elle ne dit rien, elle n'écrit rien là-dessus, ou très peu de choses, et l'historien ou l'historienne se trouve un peu comme un imbécile devant la porte de la chambre qui est fermée. Donc c'est très intéressant pour un historien ou une historienne quand il y a un défi. Et la chambre, d'une certaine manière, était un défi, et un défi curieux, parce que cette chambre qu'on ne n'arrive pas à pénétrer, elle est présente partout.
Bon, vous vous êtes lancé un défi similaire, Aïcha Limbada, le défi de faire une histoire de l'intime, l'histoire d'un sujet secret qui se passe derrière une porte fermée. Comment justement on franchit ce seuil? Comment est-ce qu'on pousse cette porte et comment on découvre et l'on fait découvrir par la même occasion ce qui se passe dans une chambre à coucher?
Alors ça, c'était vraiment le défi de ma thèse, hein. Raconter un moment qui se déroule dans une chambre aux portes fermées. Alors ces archives judiciaires que j'ai étudiées étaient une bonne voie d'accès pour me donner des indices, des indications sur ce qui se passait dans la chambre, puisqu'au moment des procès, les époux, donc les procès canoniques, les épouses doivent vraiment être très concrets sur ce qui se passe. Où s'est passé la nuit de noces, dans la chambre, enfin dans, je sais pas, dans un hôtel, dans l'appartement des parents, au domicile conjugal des époux. Est-ce qu'il y avait un grand lit, un petit lit? Comment c'était décoré parfois? Qu'est-ce qu'on a fait des draps? Donc j'ai beaucoup d'indices matériels sur ce qui se passe.
Vous êtes entrée dans beaucoup beaucoup de chambres.
Oui. Alors tous les procès ne décrivent pas aussi bien ce genre de détails, mais ça fait beaucoup d'indices. Et ensuite, on a donc d'autres sources que j'ai pu utiliser, des sources iconographiques qui représentent la chambre nuptiale, des romans, des écrits médicaux, puisque les médecins aussi décrivent ce que doit être une bonne chambre hygiénique pour recevoir le couple. Et donc on a beaucoup de choses là-dessus. Donc on a des indices sur la culture matérielle de la chambre, et on a aussi des indices sur ce qui se passe dans cette chambre. Comment les époux se retrouvent dans le lit, où est-ce qu'ils se déshabillent, quels sont les gestes qui sont amorcés, quelles sont les paroles qui sont prononcées, surtout ensuite, comment se déroule ce rapport sexuel. Et selon les affaires, c'est vrai qu'on peut avoir plus ou moins de détails, et parfois beaucoup de détails. Oui.
On savait bien sûr que le 19e siècle est matriciel s'agissant de l'organisation du mariage. Ce que votre travail permet de montrer par ailleurs, c'est qu'il l'est aussi du point de vue de l'intérieur. Que beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, que les rapports généraux d'ailleurs entre les hommes et les femmes se structurent en grande partie au cours de ce siècle. Expliquez-nous pourquoi et de quelle façon peut-être.
Alors, en ce qui concerne le mariage, donc on a un cadre légal qui fixe bien les obligations, les devoirs, les droits de chacun, plutôt les devoirs. Mais c'est vrai que là, ce que j'ai étudié, c'est ce moment où les époux se rencontrent pour la première fois seul à seul dans une chambre et en fait, le couple n'est considéré comme véritablement formé que quand il y a cet acte sexuel qui est complètement inégalitaire. Donc, avec une femme qui se doit d'arriver vierge, normalement, dans le lit nuptial, alors que l'homme, on attend plutôt qu'il ait eu des expériences avant. L'homme doit savoir entreprendre, être actif, demander, savoir quel geste effectuer, alors qu'une femme, bon, déjà, souvent, elle ne le sait pas, puisque elle est... assez souvent ignorante de la sexualité à un point que parfois elle ne sait pas quand elle entre dans la chambre ce qui va lui arriver. Elle ne sait pas qu'il va y avoir de rapport sexuel, par exemple.
Vous expliquez même que l'ignorance est organisée notamment dans les milieux bourgeois. De quelle façon cette ignorance-là des femmes en matière de sexualité est structurée?
Alors dans les milieux bourgeois ou alors très pratiquants, les jeunes filles sont surveillées, donc leurs lectures sont surveillées, leurs sorties sont surveillées, leurs fréquentations aussi, et il y a une grande attention qui est portée à l'éducation qu'elles vont avoir, et donc on va leur cacher beaucoup de choses, leur cacher la réalité des rapports sexuels, ce qu'on appelle les réalités du mariage, mais aussi leur cacher des choses sur le fonctionnement du corps. Bien souvent, elles ne savent pas comment avoir des enfants et elles le découvrent au moment où elles ont ce premier rapport sexuel qui leur est imposé le premier soir. Et donc c'est vrai que cette ignorance, elle est organisée et elle est dénoncée par des essayistes, des romancières, des médecins. mais on n'arrive pas véritablement à trouver la solution pour qu'elle puisse être éduquée et être instruite de ce qui va se passer, parce qu'on a toujours cette crainte qu'une femme qui sait ce qui va lui arriver, eh bien, elle peut aussi trouver les moyens d'être plus libre sexuellement, par exemple, avant le mariage. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'applique à maintenir cette ignorance très longtemps.
Est-ce que dans ce cadre-là, Aïcha Limbada, la notion de consentement, notamment de consentement féminin, est radicalement, totalement absente?
Alors, ça dépend de quel consentement on parle. La base du mariage est le consentement. Donc les époux doivent consentir tous les deux au mariage quand ils vont à la mairie, quand ils vont à l'église aussi. Mais après, le consentement sexuel, c'est une chose qui vient juste après, mais qui est sous-entendue. Le problème, c'est que quand on ne sait même pas qu'il va y avoir de relations sexuelles dans le mariage, de rapports sexuels, eh bien, ce consentement ne peut pas être conscientisé. Ça paraît évident. Et donc, c'est vrai que la nuit de noces devient un moment, enfin, est un moment où, en fait, une femme ignorante ne peut pas consentir en fait à ce qu'elle ignore. Et donc ça, c'est un problème. Et donc, dans les procès judiciaires, donc ceux de l'Église, on demande aux femmes si elles ont consenti d'abord au mariage à l'église, mais aussi si elles ont consenti aux actes sexuels qui ont eu lieu juste après, si elles ont fait des difficultés ou si elles s'y sont livrées de manière volontaire. Et les femmes réfléchissent à cette notion de consentement parce qu'elles peuvent parfois être très nuancées sur ce qu'est le consentement. Il y a des différences entre le consentement, c'est-à-dire que certaines femmes vont expliquer qu'elles ont accepté en gros, d'être violée parce qu'on leur avait dit que c'était leur devoir de chrétienne de se plier à ce que leur mari leur demanderait. Et donc, elles disent « je me suis prêtée à cet acte, mais avec passivité ou avec dégoût ». Et parfois, et donc elles font bien la nuance et la distinction entre le consentement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément refusé, elles ont accepté, mais parce qu'elles pensaient que c'était de leur devoir de le faire, mais elles montrent leur dégoût ou même leur manque d'adhésion à cette pratique. Et donc, elles arrivent bien à expliquer ce qui peut sembler parfois compliqué.
Comment réagissent les hommes lorsqu'ils découvrent ou non, d'ailleurs, l'ignorance de leur jeune et nouvelle épouse lors de la nuit de noces? Est-ce qu'ils réagissent tous d'une manière uniforme ou là aussi, c'est plus nuancé?
Alors, ça va dépendre des hommes. Les hommes attendent la plupart du temps que leur femme soit ignorante. Donc, c'est plutôt quand ils découvrent qu'elle ne l'est pas.
La surprise, c'est de découvrir qu'elle n'est pas ignorante.
Et on a vu des affaires comme ça, vraiment dramatiques, où des hommes demandant à leur femme « Est-ce que tu es ignorante ?» Et donc la femme répond « Non ». Eh bien, l'homme la rejette tout de suite ou la bat parce que pour lui, c'est quelque chose de complètement inadmissible. Donc, les hommes sont censés quand même... la plupart des hommes attendent que leur femme soit ignorante. Après, certains se plaignent quand même de cette trop grande ignorance parce qu'ils ne savent pas comment faire avec elle. Souvent, ils ont eu des relations sexuelles avant, enfin des rapports sexuels, mais plutôt avec des prostituées qui savent s'y prendre. Et donc, quand ils se retrouvent avec des femmes qui ne savent pas très bien, ils se plaignent parfois de difficultés qui peuvent surgir parce que ils ne sont pas forcément. Certains ne veulent pas forcément mal faire et sont maladroits ou hésitants n'arrivent pas à agir tel qu'on voudrait qu'un homme agisse, puisqu'on attend aussi de la part de l'homme qu'il fasse montre de sa puissance sexuelle dès le premier soir, qu'il fasse montre de sa grande confiance et capacité à avoir ce rapport sexuel. Et donc, ceux qui vont avoir affaire à une femme ignorante ou alors un peu apeurée et qui vont vouloir l'aménager, ils s'exposent aussi au risque d'être accusé de ne pas faire ce qu'il faut, c'est-à-dire ne pas se montrer comme un homme actif, puissant et en toute puissance.
Merci beaucoup Aïcha Limbada d'être venue nous éclairer au regard de l'histoire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La nuit de noces, une histoire de l'intimité familiale qui a paru aux éditions La Découverte. Un grand merci également à toutes celles et ceux qui font cette émission chaque jour. Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Bertie Bourdon, Fanny Richet, Pascaline Bonnet, Florian Le Calvez à la réalisation, François Richet et deux personnes aux manettes ce soir, Paul Guigne et Marie-Claire Oumabadi.
Vous êtes bien sur France Culture.
Chanteuse et compositrice, Keren Ann partage et commente 20 poèmes qui l'accompagnent dans sa vie et son écriture.
Parfois, André Chédid arrive à verbaliser des questionnements et des craintes. C'est presque pour nous rassurer. Moi, elle arrive à me rassurer.
L'instant poésie de Keren Ann, du lundi au vendredi à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et un nouvel avenue, ce soir un nouveau rendez-vous avec Serge Effet. Cette fois-ci, il est psychiatre, psychothérapeute familial et psychanalyste. Il est interrogé par Corinne Renoux-Nativelle.
À voix nue, Corinne Renoux-Nativelle. Cette semaine avec...
Serge Effet, psychiatre, psychanalyste, thérapeute familial.
Premier épisode, aux origines d'une sensibilité singulière. Bonsoir Serge Effet.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir dans le cabinet où vous recevez vos patients. Cette fois-ci, c'est vous qui allez parler. Peu de psy cumulent comme vous toutes les facettes de l'intérêt pour le psychisme humain. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, psychothérapeute familial et psychanalyste. Auteur prolifique d'une vingtaine d'ouvrages, vous êtes le chouchou des médias. Beaucoup de journalistes, dont je suis, vous contactent pour votre regard sur un fait de société, un regard toujours éclairant, dénué souvent d'une culpabilisation normative, souvent en vogue chez vos consoeurs et confrères. Cette exposition médiatique ne vous a jamais éloigné pour autant des consultations avec vos patients, le cœur de votre activité, aussi bien dans le secteur public que privé. Vous exercez dans l'indépendance de votre cabinet, mais aussi travaillez ou avez travaillé dans des institutions telles que le Centre Monceau, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Tout au cours de votre parcours, on vous trouve à l'avant-garde de questions comme la prise en charge des malades du sida, l'homoparentalité, la radicalisation islamiste, la gestation pour autrui, la transidentité, portant une parole souvent nouvelle qui rallie ou hérisse. C'est avec un grand plaisir que nous allons passer notre semaine avec vous, vous écouter enfin, vous confier dans cette belle émission. Comment ça marche dans sa tête? Que ressent-il? Dès l'enfance, ces questions vous taraudent en observant les autres. Mais commençons par d'autres commencements. Vous naissez en 1955 à Alexandrie, en Égypte. De quelle famille, de quelle lignée êtes-vous issu?
Eh bien, je suis issu d'une famille juive installée en Égypte depuis pas mal de temps, comme beaucoup de familles juives à cette époque. La famille de ma mère est originaire de Corfou, cette île grecque qui a longtemps été italienne, ce qui explique que eux-mêmes c'était des juifs vénitiens qui s'étaient installés à Corfou 2 ou 3 siècles auparavant, et ils parlaient l'italien toujours dans la famille. Et cette famille a quitté Corfou au début du 19e siècle pour s'installer à Alexandrie, car la situation devenait beaucoup plus problématique sur l'île. Ça, c'est le côté maternel, c'est des Grecs, en fait. Ma mère était de nationalité grecque et m'a donné sa nationalité grecque lorsque je suis né. Du côté de mon père, c'était une famille beaucoup plus méditerranéenne. Là, les origines sont plus compliquées pour moi à retracer. C'est le Liban, la Syrie, l'Algérie peut-être aussi un petit peu. Enfin, c'est juifs méditerranéens qui tournaient beaucoup autour du bassin méditerranéen pour travailler, pour faire un peu du commerce, des affaires. Mais mes deux parents étaient nés à Alexandrie et c'était leur pays. J'insiste là-dessus puisque il s'est passé tous les événements qui se sont passés en Égypte et qu'on connaît un peu, l'affaire de Suez, la création de l'État d'Israël, la guerre autour du canal avec les Anglais, les Français, enfin bref, l'expulsion de la plupart des Juifs d'Égypte entre la fin des années 56, le début des années 57, qui a été, je crois, le premier événement signifiant dans ma vie, dans la vie de ma famille, c'est-à-dire l'exil. Mon père a été emprisonné pendant quelque temps et on lui demandait de quitter le pays et lui ne voulait pas quitter le pays parce qu'il se sentait égyptien, bien que il n'était pas de nationalité égyptienne, il était apatride, comme beaucoup de juifs égyptiens. Et donc, il a été incarcéré pour cela. Et une nuit, la police est venue chez mes parents, enfin chez ma mère, et lui a dit « Demain, vous prenez le bateau pour quitter le pays et votre mari vous rejoindra sur le bateau à la dernière minute. » Et ça, c'est, je crois, le premier souvenir de ma vie. Alors, c'est difficile de savoir. J'avais 2 ans. Hein. On dit souvent qu'à 2 ans, on n'a pas de souvenirs. Moi, je pense que quand il y a un tel événement, un tel tsunami, un tel traumatisme, je pense que les souvenirs restent. Et le premier souvenir, c'est d'être sur le pont du bateau avec ma mère et mon frère aîné, et la sirène du bateau, pas de papa, et puis tout à coup, une voiture de police arrive, et mon père descend de la voiture avec des menottes, et il monte sur le bateau, et nous voilà partis pour un autre pays et une autre existence.
En laissant l'essentiel de vos vies derrière vous ?
En laissant tout. Tous les biens, la maison, les photos, les lettres, enfin bon, tout ce qui avait été la vie de cette famille jusque-là. Et c'est le camp de la Croix-Rouge, le camp de réfugiés en arrivant en France, et puis bon, après...
À Marseille ?
Voilà, à Marseille, oui, tout à fait. À Marseille, avant de venir à Paris, s'installer en banlieue parisienne, à Colombes. Donc effectivement, on arrive à Marseille, puis très vite... on s'installe à Paris, et là, bizarrement, c'est plutôt des souvenirs assez merveilleux qui sont les miens. C'est-à-dire, c'est un petit appartement à Colombes qui fait 2-3 toutes petites pièces, et toute la famille s'installe. Mes 2 grands-mères, des cousins, les oncles, les tantes, tout le monde passait dans cet appartement. On dépliait les matelas le soir pour pouvoir dormir. On faisait la cuisine pour tout le monde dans une toute petite cuisine, et c'était en fait très joyeux. C'était comme une promesse. Mes parents, on parlait français chez nous, mais pour mes parents, le français, c'était leur langue, c'était leur culture. Mon père récitait des vers de Racine toute la journée, ma mère adorait la culture française. Et donc, il y avait à la fois, évidemment, cette difficulté économique, et puis ce traumatisme tout de même d'avoir été arraché, disons, à ce pays, mais en même temps, cette promesse de lendemain, cette promesse d'un avenir qui peut-être allait être finalement beaucoup plus intéressant que la vie qu'ils avaient eue auparavant.
Alors, quelle était justement la vie qu'ils avaient auparavant ? Quels étaient leurs métiers ? Est-ce qu'ils travaillaient ?
Oui, auparavant, mon père était dans le commerce, dans les assurances. Enfin bon, je crois que c'était pas très difficile dans ce pays de travailler et de gagner un petit peu d'argent. Ma mère s'est mariée, elle avait à peine 20 ans. C'était une toute jeune fille, elle venait d'une famille qui était dans les tissus, dans la confection. Elle venait d'une famille très tribale, d'une certaine façon, parce qu'ils vivaient dans une grande maison avec mon grand-père, mon grand-oncle, frère de mon grand-père, et les deux familles vivaient ensemble, dans la même maison. Donc ma mère avait 2 frères, 1 sœur, et 2 cousines, 2 cousins, tout le monde avait été élevé dans cette maison, un peu, je dois le dire, sur un modèle un peu colonial, avec du personnel, avec des gens pour... Voilà, c'était une vie assez dorée, disons, assez facile à ce moment-là. Du côté de mon père, c'était une famille beaucoup plus pauvre, beaucoup plus en difficulté, d'autant que mon grand-père paternel avait été terrassé par un accident vasculaire lorsque mon père avait à peine 16 ans, et mon père était l'aîné d'une fratrie de 4, et c'est lui qui a dû travailler à ce moment-là pour nourrir sa sœur, ses frères et sa mère. Et donc il a toujours une vision du travail extrêmement sacrée, en fait, c'est-à-dire le fait de travailler pour les autres, de nourrir sa famille, c'était pour lui des valeurs vraiment fondamentales. Il avait 10 ans de plus que ma mère, donc ma mère l'a rencontré, elle avait à peine 18 ans, et lui 28 ans, c'était déjà un homme engagé dans l'existence. Ça a été, je crois, un très grand coup de foudre. Mon grand-père maternel ne voulait pas de mon père, parce qu'il d'abord il n'était pas de Corfou, et puis c'était pas le même niveau social. Voilà. Alors ma mère raconte toujours qu'elle a arrêté de manger pendant 3 mois. Elle a fait un épisode d'anorexie pour convaincre son père d'accepter cet homme-là. Et de guerre lasse, il a fini par l'accepter. Je crois qu'il ne l'a pas regretté et qu'ils ont eu une excellente relation ensemble.
C'est ce grand-père paternel disparu prématurément à laquelle on vous rattache et dont vous avez le second prénom ? Est-ce que c'est ça ?
Non, mon second prénom, c'est le prénom de mon grand-père maternel, Samuel. Ce grand-père de Corfou, c'était, vous savez, ces juifs de Corfou, Salonique. Ma grand-mère aimait à dire qu'elle était cousine d'Albert Cohen, ce qui était sans doute vrai parce que la communauté juive à Corfou était très très réduite et donc forcément il y a dû avoir des consanguinités quelque part. Mais c'est plutôt cette famille-là, et d'ailleurs, je dirais que je me sens peut-être un petit peu plus rattaché à cette branche-là, peut-être parce qu'elle m'est plus familière, disons.
Et vous avez connu ce grand-père, Samuel ?
Très petit, c'est très petit, puisque quand on a quitté l'Égypte, il était déjà très malade. Lui-même n'a pas pu venir tellement il était malade. Il est mort quelques mois après notre départ.
Et que font vos parents, une fois en France, à Colombes d'abord ?
Eh bien, une fois en France, mon père cherche du boulot, quoi. Il cherche à travailler, il fait deux, trois petits boulots, il cherche à créer une petite entreprise, entreprise de disques d'ailleurs. Il avait créé ce qui s'appelait les cartes postales musicales, c'est-à-dire c'était des cartes postales avec un micro-sillon dessus qu'on pouvait poser sur un électrophone et ça faisait de la musique de comptine enfantine. Et ça commençait un petit peu à démarrer, puis ça s'est cassé la figure. Je crois qu'il s'est aussi rendu compte qu'on faisait pas des affaires en France comme on en fait en Égypte, que les choses sont plus réglementées, disons. Et puis, il est rentré dans une entreprise, comme commercial d'abord, puis directeur commercial, dans une entreprise dans laquelle il a passé toute sa vie.
Et le passage de Colombes à Saint-Cloud, ça marque une ascension sociale ?
Petite
réussite ?
Petite ascension sociale, c'est-à-dire qu'effectivement, Colombes, c'était vraiment c'était l'installation. C'était des années, je ne vais pas dire difficiles, parce qu'on n'a jamais manqué de rien, on a toujours mangé, on partait même en vacances, comme on pouvait. Et puis c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était très, très famille. On n'était jamais moins de, je sais pas, 8-10 personnes autour d'une table, 8-10 personnes à se déplacer à tel et tel endroit. Donc c'est ce côté tribu qui était très marquant et qui est resté très important pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai ma famille, mes enfants que j'adore, mais j'adore le côté tribu. Depuis longtemps, j'ai une maison en bord de mer et on est toujours, comme dans mon enfance, on n'est jamais moins de 10-12 personnes à table parce que tous les copains viennent, les amis, les enfants des amis, et que j'adore ce côté, cette hospitalité à l'oriental que mes parents avaient, qui était très précieuse pour eux.
Vous dites que bizarrement, pour un psy, vous êtes content de vos parents. Quel genre de parents sont-ils ?
C'est vrai que c'est rare, et c'est peut-être un peu louche même pour un psy, de dire à quel point j'ai eu des parents merveilleux. Extrêmement aimants. Et puis c'était des gens très... Mon père était très drôle, il adorait plaisanter, il faisait des blagues tout le temps. Il avait un côté très optimiste par rapport à l'existence. Pourtant, il avait traversé des choses un petit peu plutôt difficiles. Mais sa devise, c'était « ça pourrait être pire ». C'est-à-dire, c'était toujours finalement... réjouissons-nous de ce que nous avons parce que les choses pourraient être bien pires que celles que nous vivons. Et il était très joyeux, il était très amoureux de ma mère et leur relation était très forte. Ma mère était une très belle femme. Alors je sais que tous les garçons sont un peu amoureux de leur mère. Oedipe est là pour nous en attester, mais elle était authentiquement une très belle femme, tout le monde le disait, enfin à chaque fois qu'on parlait d'elle, on disait mais comme elle est belle, comme elle est élégante, etc. Et moi j'étais très fier de cette mère-là, d'avoir cette mère-là. Plus tard à l'école, et puis quand j'étais adolescent, je voyais tous mes copains de classe qui regardaient ma mère en se poussant du coude et en la regardant avec des yeux en amoureux, et moi ça me rendait très très fier d'avoir cette mère. Alors pour elle, les choses ont quand même été un petit peu plus difficiles, sans doute, c'est-à-dire que quand même ce déracinement, le fait qu'elle soit passée d'une vie très très aisée, disons-le, où elle était aidée pour tout, à se retrouver dans ce petit appartement, à s'occuper de cette famille, de ses enfants, de de faire la cuisine, le ménage, etc. Bon, ça a été peut-être un peu plus compliqué. Elle a eu des moments de dépression même assez importants, à prendre des médicaments, etc., pour se soutenir. Mais je dirais qu'en dehors de ça, eh bien, la plupart du temps, elle était très bien, très aimante, très soucieuse, disons, de l'éducation de mon frère et moi. Et on savait que, voilà, on était aimés, qu'on pouvait compter sur elle. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux dans l'existence, c'est d'avoir deux parents qui sont là pour vous inconditionnellement et qui vous aiment et qui vous soutiennent. Donc, j'aurais évidemment 2-3 points dont j'ai longuement parlé sur tous les divans que j'ai fréquentés pour dire que ma mère était peut-être un peu trop proche, un peu trop intrusive, que mon père était peut-être un peu trop comme ci ou comme ça. Mais globalement, je peux dire que j'ai eu des parents formidables.
Et quel rapport entretenez-vous avec votre frère aîné, de 3 ans ?
Alors, mon frère aîné, qui a 3 ans de plus que moi, on n'a pas eu du tout la même perception, je pense, de toute cette histoire. C'est-à-dire que moi, cette histoire d'enfance m'a, je crois, beaucoup ouvert les yeux sur le monde, sur le traumatisme, sur ce que ça peut impliquer. J'étais très soucieux, par exemple, de ma mère, de ce qu'elle traversait. Je l'observais beaucoup, je parlais beaucoup avec elle, tout petit. Je me souviens, j'ai des très très longues conversations où je savais que c'était un peu, je vais pas dire j'étais son psy, mais elle se confiait beaucoup à moi. Et très petit, j'essayais de la soutenir et de lui dire des choses positives. Mon frère a un peu occulté toute cette période. D'ailleurs, quand on en parle, il n'a aucun souvenir de toutes ces années-là, alors qu'il a quand même 3 ans de plus que moi. Moi, j'ai des souvenirs de l'âge de 2, 3, 4 ans que lui n'a pas. Et je pense que, vraisemblablement, il a dû être peut-être plus atteint, comme il était plus âgé, par ce qui se passait. Et je crois que ce qu'il a dû développer à ce moment-là, c'est le fait qu'il allait prendre une revanche sur cette histoire, une revanche sociale, parce que depuis tout petit, on sentait qu'il avait cette ambition extrêmement forte, très ancrée en lui, de réussite, et du fait de réparer peut-être cette injustice sociale qui avait été la nôtre. Et je peux dire qu'il a réussi au centuple, parce que c'est devenu un très 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 grand financier. Il est très connu dans le milieu de la finance. Il a parfaitement réussi. Il a une vie matérielle tout à fait considérable. Et je pense qu'il a été dans cette lignée-là, c'est-à-dire la lignée de la réparation peut-être, alors que moi, je me suis inscrit dans le soin. Très tôt, dans le fait de réparer, dans le fait de comprendre, dans le fait de trouver des alternatives. Et puis ce côté d'essayer toujours, en toutes circonstances, de voir le côté positif, de voir par où est-ce qu'on peut sortir d'une difficulté ou d'une impasse.
Et ce questionnement autour de l'intériorité d'autrui, vous pensez qu'il naît de la souffrance de votre mère autour de cette question de l'exil ?
Je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié et que c'est lié à tout ça. En tout cas, c'est vrai que j'ai toujours eu une curiosité énorme. Et ça m'a toujours habité, aussi loin que mes souvenirs remontent, pour ce qui se passe dans la tête des autres. Comment ça fonctionne ? Comment ils pensent ? Comment ils souffrent, comment ils aiment, comment déjà mes petits camarades à l'école, je me demandais, je les regardais, je les interrogeais. J'avais une soif psychologique, on pourrait dire, de saisir tout ça. Et évidemment, c'est certainement très lié à cette histoire. Oui.
Et qu'en faites-vous de ce questionnement, Serge Hefez ? Est-ce que vous êtes le confident alors de votre mère, mais est-ce que vous l'êtes également des autres enfants, des autres adolescents ? Est-ce que ça colore vos relations
oui,
avec...
Oui, 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 oui. incontestablement, je suis celui à qui on vient raconter les choses, on vient raconter ce qui va pas, le confident des premières amours des uns et des autres dans les cours d'école. Et du coup, je suis un peu hors, hors conflit. C'est-à-dire que quand il y a des bagarres, quand il y a des dissensions entre les uns et les autres, je remarque que moi, je suis toujours un petit peu en dehors. D'abord parce que j'aime bien tout le monde, que je trouve que tout le monde a raison. Et que, puisque tout le monde a raison, je vais plutôt essayer d'apaiser les conflits, de pacifier ce qui se passe entre les uns et les autres, plutôt que de d'y participer directement ou de mettre de l'huile sur le feu, ce qui m'est aussi reproché, parce qu'on me demande évidemment déjà à ce moment-là de prendre des parties que j'ai pas forcément envie de prendre.
Vous êtes naturalisé quelques mois après votre arrivée en France,
ouais.
Mais vous ne vous sentirez jamais un Français comme un autre. Quel écart creuse en vous le fait que vos racines soient ailleurs ?
Eh bien, c'est ce que connaissent, je pense, toutes les personnes qui ont été comme ça, qui ont eu cette expérience de d'exil, de rupture, ou de même sans expulsion, hein, qui ont eu à changer comme cela de pays, de culture assez tôt. C'est que la question de l'identité se pose différemment. Je me sens incontestablement français. La France, c'est mon pays, j'y suis depuis que j'ai l'âge de 2 ans. En plus, je suis à Paris depuis que j'ai l'âge de 2 ans, j'ai jamais quitté cette ville. Toute ma culture est française. Et en même temps, je sais que je ne suis pas un Français comme les autres, un Français de souche ou un Français de sang, je ne sais pas comment dire les choses. Je le sentais très bien. Lorsque j'étais enfant, donc on était d'abord à Colombes, puis quand j'ai eu 6 ans, on a déménagé à Saint-Cloud, qui est une banlieue, disons, un petit peu plus aisée, bien qu'on vivait dans un appartement très très modeste, hein, dans cette ville-là. Mais mes camarades à l'école étaient souvent de familles plus aisées, de familles parfois de la noblesse, etc. Et moi, j'étais absolument émerveillé quand j'allais chez eux, ou même dans leur maison de famille, par exemple, de voir des meubles de famille, de voir des portraits de famille, de voir des choses comme ça, qui m'étaient totalement inconnues. C'est-à-dire de constater qu'il y avait comme ça des lignées, des généalogies, que les gens connaissaient, des herbes généalogiques, des histoires, des objets qui se transmettaient de génération en génération. Évidemment, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là. Il n'y avait pas d'objets, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de transmission, il n'y avait rien du tout. Donc forcément, je me sentais un petit peu différent. Mais en même temps, quand on me disait « mais c'est quoi ton identité, c'est quoi tes origines ?» On est obligé de raconter à ce moment-là. C'est-à-dire que l'identité, comme le dit Ricoeur, c'est l'identité narrative qui vient tout de suite en tête. C'est-à-dire qu'il faut raconter son histoire pour savoir qui on est. Il suffit pas juste de dire « je m'appelle un tel et je viens de tel endroit ou de tel village ». Même chose pour l'identité juive. Ma famille était juive, bien évidemment. Et c'est même au nom de cette judaïté qu'il y a eu ces premiers chamboulements. Mais mes parents n'étaient pas du tout religieux, pas du tout. On faisait aucune fête juive. On n'avait absolument aucune notion de ça. Même les grandes fêtes, Pâques, Kippour, etc., ça traversait le temps sans que ma famille fasse le moindre rituel. Donc, il n'y avait pas de croyance religieuse, il n'y avait pas de croyance en Dieu, il n'y avait pas de rituel juif. Et pourtant, je ne peux pas dire autre chose que je suis juif. Donc, que signifie cette identité ? En fait, beaucoup de juifs se la posent, beaucoup de juifs non-croyants surtout se la posent. Est-ce que ça tient de la race ? Est-ce que ça tient de la généalogie ? Est-ce que ça tient d'une désignation d'être identifié comme tel par les autres ? Mais cette question-là est une question particulière, et elle se repose. Et elle se repose à la faveur de tous les événements, à la faveur d'une guerre, d'un conflit. Enfin, Dieu sait qu'on en traverse et que la question juive se repose dans l'actualité très, très fréquemment. Et là, à ce moment-là, eh bien, je suis identifié comme juif par beaucoup qui me disent « Ah, mais en tant que juif, comment vous... » Vous positionnez par rapport à tel conflit, par rapport à telle chose. Et c'est un peu compliqué pour moi. C'est un petit peu compliqué.
Quel est votre rapport, Serge Eiffez, à la langue française à votre arrivée et dans les années qui suivent ?
Oh, la langue française, c'est une langue qui est adorée dans ma famille. Déjà dans la famille de ma mère, où il parlait plutôt l'italien, mais mon grand-père parlait et écrivait cette langue. Il avait une énorme bibliothèque, il lisait beaucoup, et le français était sa langue préférée, le français classique. Il l'adorait, et il l'avait transmis à ses enfants. Mon père, de son côté, avait fait ses études en français. Bien évidemment, il parlait aussi français dans sa famille. Et lui aussi était un adorateur de Racine. Il récitait des vers, et ça, c'est quelque chose qui m'a transmis, parce que j'adore faire ça aussi. Il croisait ma mère dans un couloir, il disait « Mais me cherchiez-vous, madame? Un espoir si charmant me serait-il permis ?» Vous voyez, il égrenait sa conversation avec des citations. Donc le français était vraiment une langue, c'était la langue, et puis c'est ma langue, de toute façon je ne parle que le français, je baragouine quelques autres langues, mais enfin le français c'est ma langue, et j'ai lu très tôt, très 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 tôt, j'ai une passion pour la lecture, et je me souviens que dès l'âge de, alors je lisais évidemment des livres pour enfants au départ, mais dès l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à lire la vraie littérature et des vrais classiques. J'ai commencé par Alexandre Dumas, qui m'a passionné, que j'ai lu alors de bout en bout, et il y en a des livres chez Alexandre Dumas, et après je suis passé à la littérature plus sérieuse, et déjà à 14-15 ans je lisais Proust avec passion. Donc la langue française m'est vraiment très précieuse, oui.
Une langue française matinée de mots étrangers ?
Alors, il y avait effectivement... mon père, pour rigoler, il adorait de temps en temps, il se mettait à parler en arabe, parce qu'il aimait aussi beaucoup l'arabe, et il avait des expressions comme ça. Et quand j'étais petit, il y avait des mots de la langue courante pour désigner des objets, qui étaient des mots que mes parents employaient spontanément en arabe. Et donc, pour moi, je croyais que c'était des mots français. Par exemple, je sais pas, un policier, on dit un chawish. Et donc, quand on croisait un policier dans la rue, mon père disait un chawish. Et à un moment, je voyais que ça faisait rire mes camarades et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait plusieurs langues et qu'on pouvait s'exprimer dans plusieurs langues.
Serge Hefes, vous avez parlé de votre sensibilité aux autres, à l'intériorité des autres. Qu'en est une vocation? Vers quelles études décidez-vous de vous destiner?
Alors évidemment, ça ne vient pas tout de suite et d'un coup. Je savais que j'avais envie un peu, encore une fois, d'aider les autres, de me consacrer aux autres. Enfin, c'est vague quand on est jeune. D'abord, je faisais beaucoup de théâtre. J'étais dans une troupe de théâtre depuis que j'ai 16 ans, c'était pas des professionnels, mais enfin, on avait quand même un bon niveau. On est allé un été jouer à Avignon, etc. Donc, je dirais que ma première vocation, ça aurait été d'être acteur, ce qui était vraiment... Et puis, j'avais quand même un père derrière moi qui a dit, bah écoute, d'abord, passe ton bac d'abord, et ensuite, fais médecine d'abord, et puis après, on verra. Et comme je me rendais compte que il y avait sans doute un peu de raison, disons, dans tout ça, je me suis dirigé vers la médecine assez spontanément, dans ce souci, encore une fois, de soins. Et très rapidement, j'ai compris que ce qui m'intéressait dans la médecine, c'était l'écoute, et c'était le fait de d'exploiter, disons, cette curiosité psychologique que j'avais toujours eue, et que ça m'intéressait beaucoup plus que le soin à proprement parler. Je dirais même que je m'en suis rendu compte au début de mes études de médecine, le fait de toucher le corps d'un autre, et pour moi c'était un petit peu compliqué, c'est-à-dire je trouvais que c'était très très intrusif. J'avais pas envie de le faire. Par contre, m'asseoir au lit d'un malade et discuter avec lui pendant une heure, ça, très spontanément, je savais que j'avais envie de le faire et que je me rendais compte qu'au fond, ça soulageait tout autant la souffrance que les gestes médicaux ou les médicaments qu'on pouvait leur donner.
Merci, Serge Hefes. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, réalisation Félicie Faugère, prise de son Lucien Lefebvre, une série de Corinne Renoux-Nativelle disponible sur le site et l'application Radio France.
France Culture.
Qu'est-ce que le mystérieux réseau Orlov ? Une Française infiltrée en RDA, une agente invisible chargée de sa protection, des sous-marins soviétiques les plus convoités au monde.
Qu'est-ce que j'y gagne ?
Vous serez celle qui aura ramené à la France l'un des secrets les mieux gardés de l'Union soviétique.
Le feuilleton Projet Orlov, saison 2. Scénario original de Tanguy Blum, Christian Bougerolles et Antoine Piombino. Réalisation Baptiste Guiton, du lundi au vendredi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une récente étude de l'INSERM passe au crible les comportements sexuels des Français et des Françaises de 18 à 89 ans.
Sonia Kronlund.
Recul de l'âge des premières fois, diversité des pratiques, puissance du numérique.
Au bout d'un moment, on parle cul et il m'envoie une photo de son pantalon, quoi. Et ça, c'est très excitant, évidemment.
Dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités. Ce sont 13 épisodes proposés par les Pieds sur Terre pour illustrer les résultats de cette vaste enquête. À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
En partenariat avec Libération.
France Culture 20h, soit l'heure de retrouver Louise Touret pour être et savoir. Bonsoir Louise.
Bonsoir Quentin.
Et quel programme aujourd'hui ?
Ce soir, on va parler des droits de l'enfant à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre. Nous allons nous interroger sur le respect de ces droits aujourd'hui et c'est un sujet loin d'être si consensuel.